Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Si y a des gens qui sont avec moi en studio, qui viennent me rendre visite, des collègues ici pas loin, il y en a beaucoup qui ont pu réaliser que je suis un amateur, un amoureux du papier. Ce que vous entendez en ce moment dans le micro, qui vous a peut-être déchiré les tympans, je m'en excuse. Je suis quelqu'un qui a besoin de toucher du papier, d'avoir un livre en papier. Moi, les liseuses électroniques, ça m'a jamais attiré. C'est jamais venu me chercher. Rémi, je crois que t'es quelqu'un qui partage peut-être ma passion, à la fois pour les nouvelles technologies, mais aussi pour le bon vieux papier. Et là, il y a des chercheurs de l'Université du Surrey qui ont trouvé un moyen d'avoir un espèce de mode hybride, soit une réalité augmentée. On a un écran et un livre en même temps. Est-ce que c'est l'avenir, le futur des gens qui aiment encore lire des bons vieux romans qui sentent la librairie?
J'espère que oui. Ben, en tout cas, bravo pour le diagnostic que tu fais sur ma personne, parce qu'en effet, sur les questions de lecture, je suis assez conservateur, voire, je le confesse, un peu réactionnaire. Pour moi, il y a quelque chose de presque érotique dans un livre papier que l'on touche, dans l'odeur de l'encre, du papier. Puis moi, j'ai décidé très tôt dans ma vie que je ne renoncerai jamais à ce plaisir-là. Puis encore une fois, ben, on a une nouvelle technologie qui se met à être développée. Puis je me demande, on parlait du métavers l'autre jour, je me demande encore à quoi ça sert exactement, quel genre d'objectif ça poursuit. Parce que si on veut sauver le livre papier, par exemple, ben, je pense pas qu'on va y arriver, là. On est en train de le dénaturer. Donc, c'est pas le livre papier qu'on va sauver, c'est qu'on va proposer quelque chose d'autre qu'un livre papier. Si on veut sauver la lecture, ben, selon la lecture que je fais de cette technologie-là, je pense pas qu'on va y arriver aussi, parce que on va essayer de la métisser avec du contenu numérique, des interactions toujours de plus en plus insistantes qui nous coupent de ce que la littérature est, c'est-à-dire une épreuve. Lire, là, c'est normal que ça soit plus compliqué que de regarder un film ou d'écouter une chanson. Ça a toujours fonctionné comme ça. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a moins de lecteurs qu'il y a de gens qui vont au cinéma, qu'il y a de gens qui se branchent devant leur télévision 5 heures par jour. Et donc, je ne sais pas si c'est réaliste de vouloir augmenter le nombre de lecteurs. Puis je pense que cette technologie-là, ce qu'elle risque de seulement être capable d'accomplir, c'est d'aller chercher une plus grande clientèle. La lecture, ça va toujours demeurer quelque chose de difficile, quelque chose d'ardu. Même un livre facile, comme un livre de Patrick Sénécal, par exemple, ça peut être plus facile que de lire du Balzac. La littérature, c'est une épreuve, il faut l'accepter, tout simplement.
Julia, qu'est-ce que t'en penses? Toi, es-tu premièrement une amoureuse des livres papier?
Mon Dieu, amoureuse, c'est même pas le mot. C'est quoi après amoureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que ce serait vraiment ça. Puis pour moi,
une passionnée.
Plus que ça encore, tout ça et plus encore, parce que pour moi, les livres ont ceci d'important qui nous permettent vraiment de décrocher des écrans. On entre dans un autre univers, puis la lumière des écrans, ça fatigue. On passe nos journées devant nos ordinateurs. Alors, le livre physique, pour moi, est aussi une rupture avec le monde numérique, et mon Dieu, qu'on en a besoin. En tant que quelqu'un qui lit beaucoup, il y a aussi le fait que mon appartement est rempli de livres. Je sais plus où les mettre. D'ailleurs, s'il y a comme un auditeur, quelqu'un qui se porte volontaire pour venir m'installer une tablette, je suis preneuse. Mais ce que j'aime, c'est les regarder, les lire, les relire, les feuilleter, constater que mes livres préférés sont complètement détruits, les prêter à des amis, les offrir. Ils ont une vie, ces livres-là, ces livres physiques. Puis, on a tous des livres qui appartenaient à nos grands-parents, à nos parents, des vieilles éditions. Il y a quelque chose de très vivant dans une bibliothèque qu'il n'y a pas dans une liseuse qui tient tout seul sur une table de chevet ou sur une étagère. Donc, pour moi, cette rupture est importante et va continuer à l'être. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour prêter des livres si on a une liseuse? Pour moi, c'est comme un enjeu assez grand qu'on pourra pas surmonter. Et il faut dire aussi que la liseuse répond à un problème qui n'existe pas, parce que l'industrie des livres se porte assez bien, même au Québec, les chiffres augmentent, donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Puis c'est vrai que le livre papier est une exigence aussi, mais Rémi a raison de le dire, c'est une exigence qui en vaut amplement la peine.
Qui en vaut la peine. Après ça, quand on crée ce genre de technologie-là, là, on parle d'une technologie hybride. Là. Fait que c'est, t'as ton livre papier, t'as ton écran à côté pour t'aider à aller chercher des liens, du contenu, des explications, peut-être pour mieux encadrer la lecture. Je me penche quand même un peu, là. J'ai des questions sur les applications réelles de tout ça. Est-ce que ça pourrait peut-être venir aider des gens qui sont, par exemple, dyslexiques, ont de la misère à se concentrer, des troubles, par exemple, d'attention par rapport au livre. Je sais pas, j'essaie de voir, est-ce qu'on crée un besoin avec une mode hybride comme ça, ou on répond à un besoin? Rémi?
Ben, en fait, c'est juste qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie est développée, ça peut venir aider un certain type de personnes. T'sais, par exemple, je change de sujet, là, mais Elon Musk est en train de développer un espèce d'implant neuronal. Puis bon, officiellement, c'est pour aider des gens qui ont des problèmes, par exemple, de quadriplégie puis de paraplégie. Mais la vérité, c'est que ça va être transporté et transposé ailleurs par la suite. Donc, moi, si ça peut aider les dyslexiques, la réalité augmentée en lecture, mais bien sûr, sauf que le problème, c'est qu'après, c'est que ça devient tentant pour tout le monde. La grande majorité des gens qui n'ont peut-être pas de problème à proprement parler pour lire et qui vont s'emparer de cette technologie-là. Et là, c'est là qu'on entre dans ce que Julien vient de dire, la rupture. Et moi, j'ai peur de ça. Moi, je pense que la lecture doit demeurer une épreuve et doit devenir une réussite, un accomplissement, quelque chose qui est difficile à accomplir et au bout duquel on ressent une certaine forme de fierté lorsqu'on arrive.
Absolument. Julia, est-ce que toi, tu parviens, même, tu es une grande lectrice, mais est-ce que tu parviens à faire cette rupture-là des écrans assez souvent à ton goût grâce à la lecture?
Au départ, non, parce que moi, je pense que le défi de la lecture, c'est un défi initial, parce qu'après, ça devient d'une facilité puis d'un naturel vraiment désarmant. J'ai pris l'habitude, parce que je pense qu'on en est rendu là, de mettre mon cellulaire dans une autre pièce quand je lis. Parce que sinon, je me trouvais toujours à chercher un mot, mais après ça, finir sur Instagram par comme un mauvais sort qui m'est jeté par mon cellulaire. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui se travaille, vraiment la concentration, être présent dans le moment, et les livres nous permettent de travailler ça. Donc, plutôt que de répondre à notre besoin d'attention, il faut la travailler, puis les livres nous permettent de le faire. Donc, cette idée d'avoir un écran qui accompagne le livre, ça me réjouit pas vraiment parce que ça nous donne vraiment une possibilité d'être distrait. Puis l'idée du livre, c'est presque une méditation. Donc si, à moins que ce soit évidemment un livre d'école, là, ça pourrait être pratique. Mais bon, ouais, moi je suis plutôt équipe livre papier à la vie à la mort.
Ouais, moi dès qu'il y a un écran, là, je mon trouble de déficit d'attention vire fou. Puis là, je me mets tout de suite à regarder l'écran, peu importe où il est. Je fais partie de ce club-là qui est sceptique par rapport à tout ça. Je vais parler rapidement avec vous d'une prise de bec qui s'est faite sur Twitter concernant entre autres Jean-François Lisée, hein, l'ex-chef du Parti québécois, et Alexandre Boulris, hein, député du NPD, par rapport à une publicité que Jean-François Lisée a dénoncée, publicité du HEC Montréal qui a décidé d'afficher comme publicité une jeune femme qui porte un hijab pour tenter d'attirer les étudiantes algériennes à venir étudier ici au Québec. Il dénonce évidemment le fait qu'on utilise un outil comme ça, un symbole religieux apparent qui parfois peut s'apparenter à un symbole de domination de la femme ou de soumission, d'être affiché comme ça pour la HEC Montréal. Il y a une prise de bec là-dessus. Julien, je voulais t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de cette publicité-là?
Ben, je pense que la réaction de Jean-François Lisée démontre l'ampleur du problème et l'ampleur de la normalisation de l'islamophobie au Québec. C'est une publicité tout à fait anodine. Je veux dire, les étudiants ont le droit de porter des signes religieux. Le HEC réitère ce postulat et dit, ben, vous êtes les bienvenus. Il y a aucun problème. Puis, mon problème, c'est que on critique ce genre de publicité sous le couvert du principe de laïcité de l'État. Mais la laïcité de l'État, ce n'est pas, comme semble croire Legault et bien d'autres, et visiblement Lisée, d'empêcher des femmes de porter un signe religieux. C'est de permettre à tous de pratiquer leur religion librement. Mais au Québec, cette notion-là est vraiment difficilement intégrée. Pourquoi? Parce que les nouveaux arrivants intègrent un Québec non pas laïque, mais plutôt imprégné de culture et de principes hautement catholiques qui sont évidemment les vestiges des années de contrôle d'Église sur le peuple. Donc, l'intégration des immigrants qui pratiquent une autre religion a toujours été plus laborieuse parce que leurs valeurs sont perçues, consciemment ou non, comme étant une menace aux valeurs chrétiennes qui sont tellement profondément ancrées dans la culture québécoise. Donc, on s'en rend pas nécessairement compte, mais il faut absolument confronter ces biais. Puis c'est ce qui explique que des lois comme la loi 21 peuvent passer au Québec, alors que dans le reste du Canada, ce serait beaucoup plus difficile. Et évidemment, réduire le voile à un signe misogyne, c'est vraiment d'admettre son incompréhension d'un enjeu plus large, ça me rend toujours très mal à l'aise. Puis dès qu'on voit un voile, on saute aux conclusions. Il faut faire vraiment attention. C'est une étudiante voilée qui va aller étudier le commerce au HEC. Il y a vraiment rien à craindre là-dedans.
Rémi, t'en penses quoi, toi?
Ben, je pense que Julien vient de dire plusieurs choses qui sont vraies. Là. Il y a On n'a pas besoin de craindre que le voile s'étende chez les femmes à l'université. Par contre, le voile dans l'histoire de certains pays musulmans, ça demeure, et c'est des faits, c'est le réel, ça demeure un signe d'oppression des femmes. Donc ici, ce qui nous concerne, c'est la symbolique. Okay? Je le répète, on n'a pas besoin de craindre que le voile s'étende, mais par contre, en Iran, par exemple, avant 1979, les femmes pouvaient fréquenter l'université. Vous allez voir des vidéos sur Internet, les femmes marchaient avec des robes, se promenaient dans la rue. La révolution des ayatollahs est arrivée, le voile est devenu obligatoire pour les femmes iraniennes et pour les touristes. Donc, si vous vous rendez en Iran sans voile, vous allez voir, c'est pas juste une amende qu'on va vous donner. En Irak, le voile est devenu la norme à partir des années 90. Donc, sous l'Irak laïque de Saddam Hussein, les femmes pouvaient s'émanciper, pouvaient aller à l'université, pouvaient occuper des postes dans la fonction publique. Et à partir des années 90, c'est devenu plus problématique pour elles. Ce n'est pas obligatoire en Irak, mais c'est la norme. Vous vous faites regarder relativement croche si vous le portez pas. Donc ça, on a quand même besoin de le tenir en compte. Là, ça. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment une question de est-ce que le voile est un symbole d'oppression de la femme, parce qu'on rencontre plusieurs femmes en Amérique qui nous disent que non, puis moi j'ai pas envie de me mettre à leur place puis de leur dire ce qu'elles pensent. C'est pas la posture que j'adopte dans la vie, je laisse ça à qui, vous savez qui. Mais c'est quand même une réalité avec laquelle il faut savoir composer. C'est un symbole qui est lourd de sens. Et pour le Québec, qui a quand même, un complexe par rapport aux droits des femmes, parce qu'on a été parmi les derniers à accorder le droit de vote en 1940, ben on ressent quand même des relents de cette blessure-là lorsque le voile est affiché publiquement. Moi, je pense que ça n'a pas rapport dans une publicité d'une université laïque.
Ouais, c'est sûr, c'est lourd de sens. Peut-être que c'est utilisé un peu de manière banale, comme ça, dans une publicité, en se disant, oh, c'est une facette comme une autre d'une personne, sans peut-être prendre en compte le sens qui est lourd. Bref, je ne pourrais pas me poser, tout comme toi, Rémi, en juge et jury de cette situation-là, mais c'est certain que ça soulève des interrogations, puis d'avoir un débat sain à propos de ça, c'est assez essentiel. Merci, et merci à vous deux. Je vous souhaite une excellente journée, et Julia, tu nous écriras, là, Rémi et moi, on va venir te poser des tablettes en fin de semaine, là. Tu nous diras où tu les veux dans ton appartement, hors de question que tes beaux livres traînent à terre.
Julia, tu risques de recevoir des messages très étranges aujourd'hui.
J'espère.